Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
La radio. L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
Depuis le début de la pandémie, ma consœur Josée Legault, ma consœur du Journal de Montréal et du Journal de Québec, cogne sur le même clou fréquemment, et chaque fois je lis ses textes puis je dis oui, elle a tellement raison. Et la question qu'elle pose, pourquoi, Monsieur Legault, vous ne rendez pas le port du masque obligatoire? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Elle est avec nous. Salut Josée.
Bonjour Richard.
Tu lâches pas le morceau, hein?
Ben j'ai pas le choix. Je vis à Montréal. Je vis dans l'épicentre canadien de la COVID-19. Je vois très bien que le port du masque, c'est pas quelque chose qui va devenir une norme sociale par la pensée magique, contrairement à ce que dit le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Et il en est en partie responsable, parce que pendant les premières semaines de la pandémie, lui-même a ouvertement découragé la population à porter le masque. Donc, il a créé une confusion dès le début. Mais une fois que ça s'est fait, ça peut se corriger, mais ça ne se corrige toujours pas. C'est pour ça que dans ma chronique d'hier, je suis revenue là-dessus pour réexpliquer que le port du masque obligatoire, puis soyons précis, là, dans les lieux publics fermés, c'est-à-dire bon, les transports en commun, les commerces, etc., c'est pas une opinion, hein. C'est que il y a toute une science qui est derrière ça. En fait, c'est connu depuis la grippe espagnole de 1908, si on veut dire la vérité. mais mettons qu'il n'y a pas eu de monde avant nous, avant 2020, et mettons qu'on apprendrait ça maintenant. Il y a de plus en plus d'études scientifiques très, très sérieuses, j'en cite deux parmi tant d'autres, qui expliquent toutes les raisons logiques et scientifique pour laquelle on devrait rendre le masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Et d'ailleurs, on a vu la semaine dernière plusieurs médecins épidémiologistes ici au Québec le demander. C'est pas des hurluberlus là. Et vraiment, j'avoue que pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas.
On a vu des bancs, c'est ça, des médecins ici le demander, mais j'ai lu aussi dans des journaux français des tribunes signées par des médecins, des experts qui parlaient aussi du masque aux États-Unis aussi
depuis
la même chose.
Depuis le mois de mars, j'ai écrit ma première chronique sur le masque le 19 mars. Le 18 mars, la veille, M. Arruda avait réalisé une vidéo diffusée sur les médias sociaux où il demandait aux gens de ne pas le porter.
C'est incroyable.
C'était quand même assez, oui, parce que déjà en Europe, ça se discutait. Et pour toutes sortes de raisons, je ne sais pas si on a le temps de revenir sur certaines des raisons principales.
Bon, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait peur. Il y avait peur que ça donne un faux sentiment de sécurité, que les gens relâchent le respect des consignes de distanciation. C'est ça, là.
Oui, mais c'est ça. C'est que le faux sentiment de sécurité, c'est de ne pas porter le masque. Et ça, c'est la vérité. Et encore une fois, c'est une question scientifique là. Et la COVID-19, on sait que c'est un virus essentiellement respiratoire. On sait aussi que il n'a pas que deux portes d'entrée. Hein. C'est pas que le nez, c'est pas que la bouche, c'est aussi les yeux. On oublie la troisième porte d'entrée. C'est pour ça que dans le milieu, dans les hôpitaux, etc., les gens portent des visières ou des lunettes de protection, etc. Parce que vous pouvez porter. Mettons que bon, Richard, toi et moi, on se parle. Moi, j'ai un masque. Toi, tu n'as pas de masque. Et disons que tu es contagieux sans le savoir. Tu pourrais même être contagieux en le sachant, puis être un petit ratoureux, puis pas me le dire. Bon. Alors, mais mettons que tu ne le sais pas. Je ne te prête pas de mauvaises intentions. Et moi, j'ai le masque. Et là, on se parle. Puis on se parle pendant 5 minutes, 10 minutes. Et puis, tu projettes. Tu es un homme. Tu as une voix forte. Ça se pourrait que je l'attrape par les yeux, même avec mon masque. Alors,
par les yeux.
C'est la troisième porte d'entrée du virus, d'où la nécessité dans les comme je te dis dans les hôpitaux, les CHSLD, etc., de porter une visière. parce qu'il faut protéger aussi les yeux. Alors, si tu portais le masque et que je portais le masque et que nous étions en train de nous parler et que tu étais contagieux, là, on serait protégé. Je serais protégé de toi.
Mais est-ce qu'on porte le masque pour se protéger soi-même ou on porte le masque pour protéger les autres?
Les deux.
Les deux.
Et parce que les yeux sont une porte d'entrée, c'est pour ça aussi que ça rend le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés encore beaucoup plus important. Et tu sais que dans la région de Montréal, il y a beaucoup de commerces de quartier, puis là, les gens vont plus dans leurs commerces de quartier parce qu'on se déplace moins, qui sont de petites surfaces. Hein? C'est des petites boutiques, des petites épiceries, des petits magasins. Alors là, dans le déconfinement, les gens vont dans des endroits publics qui sont petits en plus. Alors, les commerçants ont beau limiter le nombre de clients, etc. Écoute, tu le sais comme moi, même dans une pharmacie, dès qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui portent le masque, tu te mets en danger. Et à cause de cette troisième porte d'entrée là. Et moi, ce qui m'a répile, et je l'ai soulevé un peu dans ma chronique hier, c'est que parce que le masque n'est pas obligatoire pour tout le monde dans ces lieux-là, et là j'ajoute évidemment les transports collectifs, tout ça, ça fait que les personnes qui ont des vulnérabilités, hein? Donc, les personnes, mettons, de plus de 60 ans, les personnes qui ont peut-être des maladies chroniques, des personnes handicapées. Il faudrait qu'elles s'habillent avec un scaphandre, elles, pour aller dans des lieux publics fermés pour se protéger, pour que justement leurs trois portes dentées soient protégées, le nez, la bouche et les yeux. Mais il n'y a personne qui peut faire ça. Moi, je vais te donner l'exemple. Tu sais, moi, je m'occupe de ma sœur qui est déficiente intellectuelle. Oui. Elle a 57 ans. Moi, je ne l'amène plus dans aucun, nulle part. On va marcher et c'est tout. Pourquoi? Parce que elle n'est pas protégée. Elle a beau porter le masque, si je l'amène dans une petite boutique ou à la pharmacie ou quoi que ce soit, puis qu'elle croise quelqu'un de contagieux qui ne porte pas le masque, ben par ses yeux, elle pourrait l'attraper. Tu vois? Donc, et je vais pas mettre ma sœur dans une visière ou dans un scaphandre ou une tête de bonhomme carnaval. Tu comprends? Donc, il y a quelque chose de terriblement discriminatoire contre les personnes qui ont des fragilités ou des vulnérabilités à ne pas imposer le masque pour tout le monde dans les lieux publics fermés.
Tout à fait. Mais tu te fais regarder bizarrement quand tu as ton masque. Moi, je l'ai porté hier, j'étais justement dans une maison à l'intérieur et je portais un masque. Et tu sais, il y a des gens qui disent, mais pourquoi il y a un masque? Ils te regardent en disant, il est bien niaiseux de porter un masque.
Justement. Et c'est ça qui fait que ça ne deviendra pas une norme sociale par la pensée magique. À cause de la confusion qui a été créée au début, à cause aussi du fait qu'on est dans une grande ville. Puis dans toutes les grandes villes, les gens sont individualistes. Les gens sont indisciplinés en général. Et évidemment, chez les plus jeunes, et ça, c'est normal pour toute la jeunesse. On se sent invincible. Et tout le monde sait que ce virus-là, il va s'en prendre plus un petit peu aux gens de plus de 60 ans. Donc, les jeunes se disent, moi, si je l'attrape, je vais être correct. T'sais, je vais survivre. C'est pas plus grave que ça. C'est comme une grosse grippe. Hein? Bon. Mmh. Alors, ils se protègent pas. Ils portent pas le masque. Et en faisant ça, ils pourraient infecter quelqu'un de fragile. Tu vois, mais eux, ils réfléchissent pas à ça. C'est pour ça que les pouvoirs publics doivent intervenir.
Et est-ce que tu
pour imposer ça à la population?
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que M. Arruda est irresponsable?
Je pense qu'il manque de responsabilité en ce moment. C'est pour ça que j'ai aussi écrit ma chronique sous une forme de lettre ouverte, en tout respect hier au premier ministre, parce que évidemment, le premier ministre a le pouvoir de le décider lui-même. Et la mairesse de Montréal aussi, en passant, aurait le pouvoir de le faire pour la ville de Montréal. Elle ne le fait pas. C'est à se demander d'ailleurs, est-ce que c'est la mairesse qui a convaincu le premier ministre que c'était pas nécessaire? On le sait plus, là. Mais à la limite, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça se fasse. Et lorsque j'entends M. Arruda dire, il le répétait hier en entrevue, ben on verra, on va attendre de voir s'il y a une deuxième
mais
vague.
Mais il attend quoi?
On pourrait l'imposer. Non, mais c'est parce que, Richard, c'est parce que le port du masque, et ça aussi, là, c'est dans des études scientifiques, ça pourrait contribuer à, obligatoire, ça pourrait contribuer à soit empêcher une deuxième vague ou au moins en amoindrir la force.
Non, mais c'est parce qu'il n'arrête pas, José, il n'arrête pas de nous dire...
Qu'elle arrive.
Il n'arrête pas de nous dire, nous autres, on se fie à la science. Hein. C'est toujours ça, nous autres, on se fie à la science. Mais c'est pas vrai, parce que la science le dit qu'il faut porter le maudit masque.
Ben oui, puis il le dit clairement, là, tu sais, de plusieurs sources absolument crédibles. Là. Encore une fois, on n'est pas dans le domaine de l'opinion, on n'est pas dans le domaine du « moi, je pense que », on a des scientifiques partout, et c'est pas pour rien que ces médecins-là et ces épidémiologistes-là sont sortis la semaine dernière pour le demander au premier ministre, là. Et moi, tu sais, j'écris beaucoup sur les sujets de santé, j'ai beaucoup de contacts dans le milieu de la santé, et je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels de la santé qui sont désespérés en ce moment et qui se demandent pourquoi on n'impose pas le masque dans les lieux publics.
Écoute, il y a un entêtement de la part du gouvernement contre le masque. Moi, quand je les ai vus la première fois qu'ils l'ont porté, là, tu sais, là, ils sont arrivés à leur point de presse, ils avaient tous leur masque, je me suis dit, ah, ben là, voilà. Mais eux autres,
ça
va arriver, mais ils font rien. Encourager les gens à le porter, mais il faut aller plus loin que ça.
Ben, je vais te donner un exemple. C'est un exemple bien niaiseux, mais la ceinture de sécurité.
Oui.
Alors, imagine si à l'époque on l'a rendu obligatoire pour sauver des vies, hein, c'est la même chose. Les premiers ministres s'étaient contentés d'arriver en portant une ceinture de sécurité dans des points de presse, puis en espérant que à la longue, les gens diraient. « Hey, c'est une tabarouette de bonne idée, ça. Je pense que je vais porter ma ceinture de sécurité. Puis donc, si j'ai un accident, mon cerveau, il va pas voler sur mon passager, tu comprends? » Alors, ça fonctionne pas comme ça, la nature humaine. Et quand on parle de santé publique, on parle de sécurité, on parle de vie, ben des fois, il faut imposer les choses et ça va être temporaire. Je veux dire, ça sera pas pour les prochains 10 ans, là. Bon, c'est pas une. Tu sais, faut pas penser là qu'on va on va vivre le reste de nos vies avec des masques. Tu sais, la grippe espagnole, à un moment donné, ça s'est terminé. Mais le port obligatoire de masques dans les grandes villes américaines avait beaucoup aidé. Donc c'est un sacrifice temporaire, mais c'est un sacrifice pour moi, c'est un geste de solidarité sociale.
Oui, puis on sait que chez les Asiatiques, par exemple, ça fait partie de leur coutume. Mais moi, je me souviens les premières fois mais je voyais les Asiatiques avec des masques et je me disais, coudon, ils ont-tu peur que nous autres, les Blancs, on les contamine? C'est bien bizarre. Tu sais, je le prenais personnel et finalement, on m'a expliqué,
c'était la pollution aussi.
Oui, mais c'est ça. Mais je le prenais personnel puis ils me disaient, non, c'est une marque de politesse. Au contraire, ces gens-là ont peut-être la grippe puis ils veulent te protéger, toi.
Mais c'est-à-dire, c'est de l'altruisme, finalement. Mais l'altruisme en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, je dirais que c'est pas une qualité ou c'est pas un trait culturel qui est spontané, disons-le comme ça, poliment. Donc, il faut vraiment l'imposer. Comme je dis, on est face à un virus qui tue. Et quand il ne tue pas, il peut rendre des gens extrêmement malades et laisser de graves séquelles. Donc, c'est pas. Et je pense qu'en ce moment, on le voit à Montréal, il y a comme une espèce de nonchalance. Les gens ont l'impression que c'est fini. Là, ça va bien. On déconfine. On peut faire ce qu'on veut. Et la distanciation sociale, quand on nous dit, on vous recommande de porter un masque quand la distanciation sociale n'est pas possible. Mais je m'excuse, en ville, là, elle est rarement possible. Elle est peut-être plus facile à Outremont, à Ville-Mont-Royal et à Westmount. Mais je peux te dire que dans ben des quartiers, là, c'est pas possible la distanciation sociale. Puis ça l'est pas dans les transports en commun. Alors, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un chauffeur personnel, puis qui doivent prendre les transports en commun, ben, il faut les protéger contre leur gré. comme avec la ceinture de sécurité. Si c'est bien plus confortable dans une voiture de pas porter de ceinture, oui. hein, on peut bouger comme on veut, on peut faire, on est beaucoup plus libre, mais on la porte parce qu'il y a une loi qui nous oblige à la porter pour nous protéger finalement même contre notre gré. Et donc pour une période temporaire de nos vies, ce serait absolument vital, et j'insiste sur le mot vital, de le faire. Alors, bon, moi, je ne désespère pas. Je vais continuer à écrire là-dessus. Je vais revenir, puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire.
Continue, parce que l'entêtement de M. Arruda et de M. Legault est incompréhensible. Merci beaucoup, José, de marteler ce point-là.
Est-ce que je peux terminer sur une chose?
Oui.
J'aimerais dire quand même, quand ce qui concerne le premier ministre, je ne sais pas qui l'informe et qui lui donne ces informations là-dessus, mais moi, je ne doute pas du tout là de son désir de protéger la population. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Mais vraiment, peut-être qu'il serait temps que quelqu'un lui donne une ou deux bonnes études scientifiques sur le sujet, là, qu'il lise ça et puis qu'il réalise en tout respect que c'est un geste fondamental de protection de la santé publique en ce moment et pour les prochains mois.
Je suis tellement d'accord avec toi. Merci beaucoup, José. Merci.
Merci,
José Legault, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.